VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h universel dans 5 minutes Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord les nouvelles. En RCA, les agents de police retenus en otage par des hommes armés dans le quartier musulman de PK5 à Bangui, finalement remis en liberté. Une libération qui intervient au lendemain des violences qui ont fait au moins 16 morts et plus d'une vingtaine de blessés dans la capitale centrafricaine. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Selon une source proche des ravisseurs, ces agents de police kidnappés dimanche dans le 3e arrondissement ont été relâchés ce mardi en début de soirée. Leur libération fait suite à plusieurs heures de négociations menées par la MINUSCA et certaines autorités locales du 3e arrondissement. Le ministère de la Sécurité publique a confirmé avoir reçu un message de la part des ravisseurs confirmant la mise en liberté des otages. Le gouvernement qui se réserve de toute déclaration jusqu'à la récupération des 6 policiers. Entre-temps, les accrochages de ce lundi après-midi entre hommes armés et forces internationales au PK5 ont fait au moins 16 morts et plus d'une vingtaine de blessés selon des sources hospitalières. Par ailleurs, des affrontements entre ex-Silika et Peul armés dans les régions de Batangafo et Kagabandoro ont fait dimanche et lundi 16 morts et de nombreux blessés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Cour pénale internationale de la Haye, l'ancien vice-président de la RDC Jean-Pierre Bemba Gombo, condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre, viol et crimes contre l'humanité. Le point avec Eric Manirakiza.
La sentence a été annoncée en audience publique. La juge Sylvia Steiner a énuméré les 5 chefs d'accusation retenus contre l'ancien vice-président congolais avant de prononcer la peine.
La Chambre impose la sentence la plus élevée de 18 ans pour viol et constitue la peine totale contre M. Bemba.
Jean-Pierre Bemba Gombo écope 18 ans de prison, la plus lourde peine qui sera déduite du temps qu'il a passé sous les verrous. La défense a annoncé qu'elle va faire appel. Il avait été reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol perpétré par sa milice en Centrafrique. Jean-Pierre Bemba est la première personnalité de haut rang à être châtié par la Cour pénale internationale. Riche homme d'affaires, M. Bemba s'est converti en chef de guerre à la tête du mouvement de libération congolais, le MLC, qui a commis des bavures à Bangui entre octobre 2002 et mars 2003.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, le gouvernement a annoncé le cessez-le-feu d'un mois avec les groupes rebelles dans le delta du Niger. Les détails avec Claire Morejibo.
Cet accord de cessez-le-feu annoncé par le gouvernement d'Abuja inclut les vengeurs du delta du Niger qui ont multiplié les attaques ces dernières semaines dans cette région riche en hydrocarbures. Mais sur leur compte Twitter, les vengeurs du delta ont assuré dans un message ironique que le haut commandement des rebelles ne se souvient pas avoir conclu le moindre cessez-le-feu. Le groupe s'était dit prêt à négocier avec le gouvernement la semaine dernière si des médiateurs étrangers supervisaient les discussions. Les vengeurs du Delta affirment se battre pour une meilleure répartition des recettes dans le Delta du Niger. Ces multiples attaques contre les installations pétrolières ont contribué à la chute de la production de brut à son niveau le plus bas depuis 30 ans. Le pétrole représente 70% des revenus de la première économie africaine.
Et pour terminer, l'Europe est fébrile à moins de 48 heures du référendum de la Grande-Bretagne pour rester ou non dans l'Union européenne. Tatiana Mosso.
Quel que soit le choix des Britanniques jeudi, les attentes sont grandes à Berlin et Paris, les deux piliers de l'Union européenne. Le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, promet de garder l'initiative pour éviter une éventuelle contamination en cas de victoire du Brexit. Il a évoqué un budget, un parlement et un commissaire pour la zone euro. Mais concernant l'euro, les divergences et suspicions persistent entre Paris et Berlin. La France peine à contrôler ses déficits, tandis que Berlin refuse l'idée d'une mutualisation des dettes. Les Allemands ont peur de se retrouver avec une France affaiblie et il n'y a pas de consensus sur la politique à adopter le jour d'après. Côté allemand, Wolfgang Schäuble, ministre des Finances, a estimé « quelle que soit l'issue du scrutin, il ne faudra pas dire « continuons comme ça en Europe ». En attendant le vote des Britanniques, l'Institut Montaigne en France a lancé une mise en garde disant que la tentation du statu quo et de l'immobilisme serait simplement un suicide politique.
Merci de votre attention. Bonne soirée.
Bonjour chez vous, chers auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Eric Manilakis en votre compagnie. Carrefour Science et Santé s'articule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nombreux parmi vous sont familiers à l'utilisation des réseaux sociaux. Chaque application a sans doute son utilité spécifique. Il s'est avéré que les réseaux sociaux sont utilisés par toutes les catégories, les jeunes, les adultes, les hommes politiques, etc. En page santé, la fièvre jaune en RDC, la grippe aviaire au Cameroun et bien d'autres sujets. C'est tout de suite dans Carrefour Sciences et Santé. Bienvenue à tous. L'actualité oblige. Nous débutons notre magazine par la RDC où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré plus de 1000 cas suspects de fièvre jaune. La majorité de ces cas sont des hommes et ils sont principalement âgés entre 20 et 34 ans. Idriss Fall.
En République démocratique du Congo, plus de 1000 cas suspects ont été signalés depuis le mois de mars. En Angola, plus de 3000 depuis décembre et au moins 400 décès. Des cas sont aussi signalés en Ouganda et au Kenya. La fièvre jaune est une maladie incurable et le vaccin est le seul moyen pour se prémunir. 18 millions de vaccins ont déjà été distribués dans ces trois pays. Une dose normale de vaccin contre la fièvre jaune peut protéger toute une vie, mais pour une ville comme Kinshasa qui compte plus de 12 millions d'habitants, une vaccination de masse est quasi impossible. Tarek Tazarevic, porte-parole de l'OMS, a déclaré aujourd'hui qu'en cas de pénurie, il est recommandé d'administrer un cinquième de la dose qui permettrait de garantir l'immunité pour au moins une année. Le stock actuel est de quelques 6 millions de doses de vaccins. Il n'y a pas moyen d'accélérer la production. La fabrication du vaccin contre la fièvre jaune prend environ 12 mois. Pour le moment, l'Institut Pasteur, le Brésil, la Russie et Sanofi, usine pharmaceutique française, sont les seuls fabricants au monde.
De la RDC, nous restons en Afrique centrale. La fièvre avicole au Cameroun, grosse exportatrice vers cette région, est sinistrée par la résurgence de la grippe aviaire H5N1 qui touche 3 des 10 régions du pays et met en péril de nombreux élevages. Depuis le 25 mai, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé, le secteur est paralysé. 3 régions sur les 10 que compte le Cameroun sont déjà touchées et le risque de voir d'autres régions attaquées existe. John Lindon a posé cette question et bien d'autres à Bernard Ndjonga, président du CRAC, Croire au Cameroun et président d'honneur de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs ACDIC, principale organisation paysanne du pays.
Si on favorise la propagation de la maladie dans toutes les régions, la maladie va y arriver. Quand je vois l'attitude du gouvernement, je pense qu'il y a un peu d'irresponsabilité dedans. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est qu'on ne mobilise pas suffisamment de moyens pour prendre un ensemble de dispositions qui non seulement empêchent la propagation de la maladie, mais aussi sauvegardent la filière agricole. Parce que voyez-vous, on joue sur plusieurs tableaux, sur le tableau économique, on joue sur le tableau social, sur le tableau sanitaire. On joue aussi sur le tableau environnemental.
Est-ce qu'il y a un moyen de compensation en ce moment?
Il n'y a absolument pas de disposition qui soit prise pour qu'on puisse envisager un quelconque dédommagement. Et c'est ça qui est douloureux.
Est-ce que ce qui se passe au Cameroun a des répercussions sur les autres pays de la région?
Mais bien évidemment, parce que voyez-vous, le plus grand bassin agricole du Cameroun, l'Ouest Cameroun, c'est 80% de la filière agricole nationale et c'est 60% de la filière agricole sous-régionale.
Alors, que fait la société civile à laquelle vous appartenez?
Alors, nous travaillons sur plusieurs plans. Bon, déjà, le premier plan, c'est de mettre le paquet sur le gouvernement pour qu'on se rassure de la manière avec laquelle le virus est arrivé au Cameroun. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on se pose des questions sur l'origine de ce virus au Cameroun. Ça, c'est de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils puissent envisager une indemnisation des producteurs. Troisième plan, mettre la pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils ne puissent pas envisager la réimportation des coupes de poulet congelées au cas où il y avait pénurie du poulet au Cameroun à l'heure actuelle. Évidemment, nous participons aussi à l'éducation des consommateurs.
Alors, est-ce qu'on peut toujours consommer du poulet au Cameroun en ce moment?
Oui, bien évidemment, on peut consommer du poulet si on prend un minimum de dispositions. Premièrement, il ne faut pas que ce soit un poulet qui est mort, dont la mort n'est pas connue. Un poulet mort, il faut l'exclure. Deuxièmement, quand on a un poulet vivant, qu'on tue et qu'on veut le consommer,